Depuis la dernière fois, nous parlons sur le leadership. C'est ça, n'est-ce pas? Et nous avons dit que le leadership définit la capacité d'un individu à conduire, définit la capacité de quelqu'un à influencer, à inspirer d'autres individus dans le but d'atteindre des objectifs. Alléluia. Alors, je vous l'ai dit au départ, leader vient du mot lead, qui veut dire en anglais conduit, guidé. Alléluia. Alors, tu ne peux pas guider des gens si toi-même tu n'arrives pas à te guider. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas guider quelqu'un ou des personnes si tu n'as pas la capacité toi-même de te guider. Et c'est là où nous parlons du caractère. Parce que le caractère est la partie sur laquelle on valide l'authenticité d'un leader. Un leader est leader à partir de son caractère. Et l'odeur du caractère est pire que l'odeur du corps. Tu peux changer l'odeur de ton corps, mais tu ne peux pas changer l'odeur de ton caractère. Quand tu as mauvais caractère, tout le monde en sait. C'est pourquoi la Bible a laissé des personnes, a laissé qu'on archive le caractère de certains leaders qui n'étaient pas conformes, comme Saül, par exemple, le roi. Alléluia. Pour que nous qui sommes parvenus à cette génération, que nous ne puissions pas faire les mêmes choses et que nous puissions anticiper en corrigeant un certain nombre de choses dans notre vie pour être conforme au leadership que Christ attend de nous. Amen. Alors, j'aime ce texte de Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel 22, on va commencer par là. Alléluia. Ézéchiel 22, le verset 30, la Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit par la bouche d'Ézéchiel, il dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. » Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Oh, bien-aimé, puisse le Seigneur te trouver ce soir. Amen. Comme le leader pour ta génération, comme le leader pour ta famille, comme le leader pour la guérison de ta génération, au nom de Jésus. Vous voyez, le Seigneur dit à Ézéchiel, qu'Ézéchiel, je cherche un leader. Je cherche un leader. Quelqu'un qui a le fardeau pour les autres. Quelqu'un qui a la vision pour les autres. Alléluia. Et donc, la dernière fois, nous avons essayé de parler des différentes qualités essentielles au leadership. Vous vous rappelez, on a parlé, premièrement, de la discipline personnelle. Un leader doit être discipliné dans sa vie personnelle. La sagesse, la vision, la décision, le courage, nous avons parlé. Ensuite, nous avons parlé de l'humour. Un leader doit avoir le sens de l'humour. Il ne doit pas être toujours énervé, nerveux, comme si le monde entier était sur sa tête. Alléluia. Il doit être humble, l'humilité, la sincérité, l'intégrité. La colère, nous avons parlé de la colère, la sainte colère, pas la colère pour détruire les gens. Parce que n'oubliez pas, la parole de Dieu dit la colère de l'homme, pas la colère de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais la colère de Dieu a pour but de ramener l'homme dans la droiture, dans le chemin droit. Alléluia. Ensuite, nous avons parlé d'une autre qualité, la patience. Vous vous rappelez, nous avons longuement parlé sur la patience. Nous avons parlé d'une autre qualité, la diplomatie. Alléluia. La diplomatie, ça veut dire la combinaison entre le tact et la diplomatie, l'habileté à réconcilier des points de vue opposés et amener ces personnes à accomplir la vision première. Quand tu es un leader qui ne connaît pas réconcilier des gens, et qui est seulement là pour élargir le vase qui les sépare, tu es une mauvaise personne. Alléluia. La diplomatie. Ensuite, nous avons parlé de quoi? L'amitié, c'est ça? L'amitié. Un leader doit être amical. Doit être amical. Être ami avec tes collaborateurs ne veut pas dire que tu es devenu leur serpillère. Et parfois, le problème, c'est que beaucoup de leaders ont peur d'avoir une amitié parce qu'ils estiment qu'on va leur manquer de respect. Or, le manque de respect vient du moment où toi-même tu ignores qui tu es. Hello? Quand tu ignores qui tu es, tout le monde te prendra comme de la serpillière. Mais quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin du titre de quelqu'un, tu sais qui tu es. Tu sais ta valeur. Alléluia. Tu connais ta valeur. Alors l'amitié, ensuite nous avons dit qu'un leader doit avoir, a aussi besoin d'amis. Dieu lui-même dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Jésus le parle également dans le livre de Jean chapitre 15. Il dit, vous êtes mes amis. Ça veut dire, même Jésus avait besoin d'amis pour accomplir sa mission sur la terre. Il avait besoin d'amis. Aujourd'hui, tu dis, non, vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Tu es un mauvais leader. Tu es un mauvais leader. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours seul, il est un danger pour lui-même. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre au milieu des hommes. Dieu ne t'a pas... Si tu n'avais pas un impact au milieu des hommes, Dieu ne t'aurait pas créé. Alléluia. Dieu ne t'aurait pas créé. Ou bien s'il t'avait créé, il devait arranger ta place au désert. Je vous dis, même au désert, il y a des familles, il y a des générations qui y vivent. En groupe et en famille. Ils ne vivent pas seuls. Ils ne vivent pas seuls. Il y a quelques années en arrière, nous avons organisé une grande croisade dans un désert, au Tchad. Mais il y avait du monde. Et cette année-là, on priait pour le réveil au Tchad. Et c'était au désert. C'était au désert. Mais il y avait des gens. Il y avait des gens. Alors, tu ne peux pas marcher seul. Non, vraiment, moi, je n'aime pas avoir les problèmes avec les gens dont je reste seul. Tu es un mauvais leader. Jésus marchait au milieu des hommes. Son leadership l'a poussé vers les hommes. C'est pourquoi Dieu t'a donné la grâce d'être leader dans tout ce que tu accomplis. Si Dieu te donne la responsabilité de conduire des hommes, si tu ne marches pas avec les hommes, comment tu vas pouvoir les conduire? Alléluia. Donc, c'est très important. Même David avait des amis. Nous avons parlé de Hushaï, qui l'a beaucoup soutenu pendant sa bataille contre son fils Absalom et contre son ennemi Achitophel. Il y avait en dehors de Jonathan qui est mort un peu plus tôt, plus tard, il pouvait compter sur des hommes comme Hushaï. Il pouvait compter sur des hommes comme Joab, le général, qui était à ses côtés. Il pouvait compter sur les 37 hommes fidèles, vaillants héros qui étaient à ses côtés, qui étaient ses amis. Alléluia. Alléluia. Le problème avec nous, c'est que nous faisons entrer tout le monde dans notre cercle privé. Dans l'amitié, tu dois scinder. Jésus en avait 12. Les 12 ne l'ont pas vu lorsqu'il est entré en transfiguration. Alléluia. 4 ont assisté à la transfiguration. 4 des 12. Où étaient les autres? Parce qu'il y a des secrets dans l'amitié que tu ne peux pas confier à tout le monde. Et tu dois éprouver un certain nombre de personnes pour pouvoir les introduire dans ton intimité. Alléluia. Alors tout le monde tu ramasses et puis quand ton dossier est sur Facebook et sur les réseaux, tu dis, ah voilà, j'avais une mauvaise, c'est pas les vrais amis. Non, tu n'as pas pris le temps de les éprouver. Alléluia. Et la Bible dit, le juste montre à son ami la bonne voie. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Un frère. Ensuite, nous avons quitté l'amitié, nous sommes tombés sur l'inspiration. Un leader doit pouvoir inspirer les autres. Doit pouvoir inspirer. Maintenant, nous avons essayé de voir la différence entre la motivation et l'inspiration. Nous avons dit que la motivation, pour pouvoir motiver quelqu'un, ou bien pour pouvoir être motivé par quelque chose, tu as besoin d'un motif. Parce que motivation vient du mot motif. Motif, ça veut dire une raison. Tu as besoin d'une raison pour pouvoir te lever pour aller à l'église. Si tu n'as pas de raison d'aller à l'église, tu n'iras pas. Même si l'huile d'onction coule là-bas comme si c'est la pluie. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous avons vu que par contre, l'inspiration est un processus qui se développe de l'intérieur. Elle crée un sentiment intérieur, un état d'excitation, de détermination, de productivité. Alléluia. Et ce soir, nous allons avancer avec une autre qualité. Nous allons voir peut-être trois qualités bouclées sur les différentes qualités des leaders. L'organisation. L'organisation. Alléluia. L'organisation. L'organisation. Ou certains l'appellent à l'école le management. Alléluia. Certains le voient à l'école, certains l'apprennent dans des structures un peu plus évoluées. Ils appellent ça management. Management, ça veut tout simplement dire organisation. Alléluia. La capacité d'organiser les choses. La capacité d'organiser une entreprise, une structure. Alléluia. Une structure. Le mot organisation ici indique le processus par lequel le travail est divisé en plusieurs sections gérables. En plusieurs sections gérables. Et la coordination des résultats pour servir un but. Alors un leader qui est désorganisé aura un mauvais but, un mauvais rendement à la fin. Dans tout ce que Dieu te demande de faire, tu dois pouvoir t'organiser. Rappelez-vous dans cette histoire, dans Marc chapitre 6, à partir du verset 38 au verset 44, nous voyons Jésus demander à ses disciples qui avaient beaucoup travaillé de venir au désert et se reposer. Et pendant qu'ils vont au désert pour se reposer, la Bible dit que le peuple les a suivis au désert. Et donc le peuple voyant, les disciples voyant que le peuple venait de plus en plus nombreux et que le soir tombait, ils vont demander à Jésus, fais descendre le peuple dans les villes pour qu'ils trouvent de quoi manger. Et Jésus va dire, donnez-les vous-même à manger. Et dans les discussions, il va se trouver qu'un des disciples va dire, il y a quelqu'un ici qui a 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alors Jésus, si vous lisez bien le texte, vous allez voir que Jésus va demander d'organiser les gens. Il va dire, faites-les asseoir en 100 et en 50. Alléluia. Faites-les asseoir en 100 et en 50. Marc en parle, Luc en parle. Il dit, faites-les asseoir en 100 et en 50. C'est une manière d'organiser. Parce que si les gens ne sont pas organisés, même si tu as beaucoup de nourriture, ça ne va pas les suffire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux avancer? Alors, il faut être organisé. Lorsqu'on est organisé, la provision suffit. Quand on est désorganisé, la provision ne peut pas suffire. La provision ne peut pas suffire. Même quand un papa à la maison n'est pas organisé dans sa maison, le salaire là ne va pas suffire. Parce qu'il y a des poches de dépenses que tu n'as pas prévues, que tu n'as même pas organisées à l'intérieur. Ça vient, tu donnes ici, à la fin, tu dis, ah, j'ai plus rien. Jésus dit, organisez-les, mettez-les en 100, mettez-les en 50. Et la fin de l'histoire, c'est que quoi? C'est qu'à la fin, Jésus va demander de récolter le reste et il va avoir encore 12 paniers de nourriture. Alléluia. Oh, Jésus est un manager. Un leader est un manager. Vous savez, un manager ne sait. Vous savez, le manager n'est pas le diplôme. Le manager, c'est le cœur, la capacité à comprendre la structure dans laquelle tu es et comment le mettre à profit pour le bien de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Regardez Joseph en Égypte, lorsqu'il va interpréter le songe, Genèse chapitre 37, du roi, du pharaon. Et quand il va interpréter, le pharaon va dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il va maintenant faire le management, il va dire, organisez comme ça. La nourriture, construisez des grandes réserves, mettez-y. La nourriture, organisez comme ça, les dépenses, organisez comme ci, comme ça, comme ça. Et le roi va dire, waouh. J'ai jamais écouté un truc comme ça. Qui d'autre mieux que toi peut occuper ce poste? Et c'est comme ça que Joseph devient le plus grand manager de l'Égypte. Ah, je vois quelqu'un que Dieu élève au nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez voir, en creusant même en profondeur encore dans les Écritures, on trouve que la Bible parle d'une manière éloquente de la structure organisationnelle dans la vie de Moïse. Rappelez-vous, dans Exode chapitre 18, à partir du verset 21, nous voyons Jéthro qui va venir rendre visite à Moïse. Alors que Moïse venait de sortir de l'Égypte, il va donc faire le point avec son beau-père. Il dit, beau-père, le Seigneur était fidèle. Il a déployé 10 plaies. Il a délivré son peuple de la main de Pharaon. Il a fait mourir dans les eaux. Écoutez ce que Jéthro va lui dire. Est-ce quelqu'un avec moi? À partir du verset 17 au verset 18, Exode chapitre 18. Exode chapitre 18. Il n'y a pas de bon lecteur ici. Quelqu'un doit avoir un micro et une Bible. Alléluia. 18, le verset 17. Alors je lis. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Oh. À la fin de l'histoire. Prenons à partir du verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un peut dire ce que tu fais n'est pas bien avec moi? Il dit, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Alléluia. En d'autres termes, Moïse, tu as besoin de diviser le travail. Tu as besoin d'organiser le travail. Tu as besoin de décentraliser le travail. Alléluia. Alors, je vous pose une question. Lorsque vous allez à la Sonnelle payer votre facture, est-ce que vous rentrez aussitôt que vous avez payé? Non. Parce que on n'a pas bien organisé les caisses. Vous vous plaignez. Ah, vous voyez, vraiment, si on pouvait mettre ça comme ceci, il y a un long rang. Depuis 15 heures que je suis là, j'attends mon enfant. Alléluia. Tu traînes. Ça t'épuise toi-même. Et c'est plus celui, la caissière, qui récupère l'argent. Parce qu'elle-même, elle ploie sous le poids du travail. Il n'y a que 2 caisses. Et sa collègue a pris la pause. Sylvanie comprend bien ce que je suis en train de dire. Elle est seule à gérer et la caisse et le bureau, l'administration. Elle monte, elle descend. Vous allez voir ça à la banque. Tu peux retirer ton propre argent que toi-même tu as mis. Tu ne rentres pas au même moment. Tu es dans le rang, c'est ton argent. Hein? Tu es dans le rang. Quelqu'un passe. Un jour, je suis allé à la banque. Un monsieur arrive. Il prend même pas cas de nous. Hein. C'est-à-dire que j'avais le numéro 850. Donc, il y avait au moins 25 personnes devant moi. Selon l'ordinateur qui m'a donné le ticket. Mais selon la norme, j'étais peut-être le 100e. Parce qu'il y a des gens qui arrivaient. Bon, ils regardent comme ça la question. Ils courent seulement. L'organisation. Il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il est dit que Moïse devait se tenir devant le peuple du matin au soir. Après une observation minutieuse de cette situation, Jéthro va réagir. Jéthro va dire, mon fils, mon beau-fils, moi je suis sacrificateur de Madian. Ce que tu as commencé là, j'ai fini depuis. Tu viens de commencer ta part de sacrificature. Je connais le poids de ce travail. Et si tu ne fais pas attention, tu vas mourir avant. Soit tu vas mourir avant, soit tu vas faire que le peuple là-bas va te considérer comme leur Dieu. Et tu auras manqué ta mission. Alléluia. Et si vous allez au verset 21, vous allez découvrir comment il va dire, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ça ne vous rappelle pas Jésus? Ça ne vous rappelle pas lors de la multiplication du pain? La même organisation. Il dit, établis-les, choisis. Choisis, bien aimé. Dans tout ce que tu entreprends dans la vie, si tu ne t'organises pas en séquence ou en étape, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. Vous savez, lorsque nous avons commencé la construction de ce temple, le Seigneur m'avait dit, nous allons bâtir en étape. Nous allons bâtir en étape. Sois vigilant aux étapes que je te donne. Et un jour, on a engagé, on a vu que le travail allait bien, vraiment, le Seigneur pourvoyait. Et j'ai dit à papa José, faisons deux étapes rapidement. En fait, quand tu es dans le flow, tu oublies ce qu'on t'a dit. J'ai dit, faisons deux étapes. Au moment où on a entrepris deux étapes du travail, la provision a séché. On n'arrivait pas à comprendre. Papa José me regarde, je le regarde. Il dit, on fait comment? Et on doit payer les gars là, je reste comme ça. Il dit que Seigneur. Le problème n'était pas le peuple. Le problème, c'est que j'avais oublié l'instruction qui m'avait été donnée sur l'organisation du travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous sommes allés, j'avais une panne sur mon véhicule. Papa José et moi, on est allés au garage. J'ai dit, accompagne-moi au garage. Et pendant que le garagiste regardait la voiture, on s'est assis un peu à côté et on a commencé à méditer dessus. Et alors, pendant qu'on méditait, pendant qu'ils discutaient, dans mon esprit, je priais. Je dis, Seigneur, si tu nous laisses comme ça, la honte seulement sur moi. Et au moment où j'ai parlé comme ça, j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui m'a dit, qu'est-ce qui t'a été donné comme instruction? As-tu fait étape par étape ou as-tu fait deux étapes au lieu d'une étape? J'ai dit, oh, j'ai dit, papa José, écoute ce que le Seigneur me dit. Et quand je lui ai parlé, papa José a dit, c'est vrai! Tu m'avais dit ça. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, on va se repentir ici, là. On était au garage. Papa José regarde comme ça, il y a les gens du garage. Il dit que ça ne nous regarde pas. On se repent ici et maintenant. Frère, on a commencé à demander pardon à Dieu dans un couloir, là où on était assis dans le garage. Et au moment où on a terminé la repentance et on a dit, Seigneur, donne-nous la grâce. Nous sommes prêts à obéir maintenant, étape par étape. À peine j'avais fini, qu'un message est arrivé dans mon téléphone au même moment. Et un frère me disait, apôtre, je rends grâce à Dieu pour le travail que Dieu est en train de faire dans ta main. J'ai eu un songe. Et dans le songe, le Seigneur m'a dit de pourvoir pour ce travail 3 millions de francs. J'ai dit, papa José, regarde. Il dit, ton affaire la marche. Ton affaire la marche. Ah! Alléluia! Ouh. Je suis resté comme ça. J'ai dit, papa José, regarde. Il dit, non, si je ne marchais pas avec toi tout le temps, j'aurais dit que tu as mis les mains quelque part. Vous voyez? Donc, il faut structurer le travail. Si tu veux aller loin dans un projet, tu dois structurer le travail. Tu dois mettre ton projet en étape. En étape. Et de ce que tu fais n'est pas bien. Tu te puiseras toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Vous voyez? En général, la citation ci-dessus montre bien les méfaits de trop centraliser le pouvoir des décisions. Mais je voudrais en relever une position qui nécessite une attention particulière. La portion en question est la suivante. Ce que tu fais n'est pas bien. Cette phrase implique deux compréhensions ou deux conceptions dans la gestion, à savoir le fait d'être efficace et le fait d'être efficient. Le fait d'être efficace et le fait d'être efficient. Être efficient, ça veut dire que quoi? Être compétent, être performant. Amen. La performance est différente de l'efficacité. Tu peux être efficace, mais pas performant. Or, performant, c'est être productif. C'est être productif. Alléluia. Tu peux être efficace, mais ça te prend du temps. Ça te prend du temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce que le papa était en train de dire, le beau-père était en train de dire. Tu es efficace, mais tu n'es pas productif. Tu n'es pas productif. C'est-à-dire, tu travailles comme un éléphant, mais tu as le résultat de du moustique. Et à la fin, tu vas mourir. Tu vas mourir. Vous voyez? Moïse faisait une bonne chose, mais il n'était pas suffisamment productif. En Exode 18, le verset 19 au verset 26, il est clair que Jéthro a donné conseil à Moïse de décentraliser son administration en donnant le pouvoir de décision au chef hiérarchique pour qu'il se prononce sur les petites causes, laissant toutes les affaires importantes à Moïse, et celui-ci a bien accepté. Vous voyez, il y a des gens, quand on essaie même de les aider, il y a certains leaders qui n'aiment pas qu'on les aide à décentraliser même leur travail. Ils trouvent qu'on empiète dans leur autorité. Tu veux dans mon poste? 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 Donc, ils se sentent en danger chaque fois que tu donnes une intervention même pour relever le groupe. Et ça, c'est un mauvais leader. Et c'est ça, c'était le problème de Saül. Le jour où David a donné une idée pour résoudre un problème général et que derrière ça, David a eu une récompense, il a trouvé que David voulait être à son trône. Qu'écoutez le chant qu'on dit sur David. J'ai tué 1000, David a tué 10 000. Mince, il ne lui reste que le trône. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des gens comme ça, lorsqu'on te célèbre à côté d'eux, ils estiment que tu venais à sa place. Tu venais à sa place. Par exemple, le jour où je dis à tel, viens prêcher ici, je suis en danger, parce que tout le monde dit amen à ta prière. Non, je dois le descendre. Ça, je commence à te trouver des mauvais défauts pour te dénigrer. Je me souviens un jour, je suis allé prêcher au début de la crise anglophone. J'étais allé prêcher chez un prophète à Bamenda. Et alors que j'ai prêché, Dieu m'a utilisé pour donner quelques paroles de connaissance à certaines personnes dans l'église. Je vous assure, c'était incroyable. C'était incroyable ce service. Y compris dans la vie de ce prophète. Sa femme était enceinte. Et je lui ai dit, cet enfant que tu portes, c'est un garçon. Et voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit. Et sa femme était touchée. Vous savez, la première récompense qu'on m'a donnée après la prédication, c'est que je n'ai pas mangé ce soir-là. Vous imaginez, vous êtes invité dans une ville que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. C'est votre premier séjour. Tu finis de prêcher, mais c'est aussi puissant. Tu rentres, on ne te donne pas à manger. Donc, j'ai compris que l'affaire là, hein. C'est toi l'orateur, on t'a invité. La première récompense que je n'ai pas mangée, je suis rentré dans mon lit et je devais voyager le même soir. Dieu merci, il y avait Macaro dans la salle le jour là, parce qu'elle avait son activité commerciale qui était à Bamenda. Donc la période là, elle vient aussi à l'église parce qu'elle connaissait aussi ce prophète. Et après le culte, je dis, ok, il faut que je vienne chez toi, voir là où tu habites. Je viens prier dans ton activité. Elle dit, ok. Et donc, à la fin du service, on avait fait l'offrande. C'était tellement de pièces que ma poche était gonflée comme l'abcès, frère. Un gros furoncle. Donc, j'avais de la peine à marcher avec. Alors que quand ce prophète venait à Douala, la manière que je l'organisais son séjour, c'était incroyable. Alléluia. Mais le message l'avait tellement choqué. Donc, je décide d'aller chez Maman Caro voir. Elle appelle toutes ses filles avec qui elle travaille. Mon pasteur, que je vous dis souvent de Douala, il est là. Tout le monde se retrouve chez elle. J'ai dit, waouh, je vois la maison, on est tous contents. Il dit, ma Caro, j'ai faim. Elle dit, hé, papa, tu as faim comment? Elle dit, tu veux manger quoi? J'ai dit, trouve-moi la viande. Je vais manger la viande de Baminda qu'on a brisée. Elle est allée, il y avait un monsieur pas loin de là qui a fait la braise. Elle a acheté bien même, une bonne quantité comme je pouvais bien manger et me sentir bien. Mais juste au moment où on met sur la table, mon prophète là entre aussi avec sa femme. Vous riez, hein? J'ai eu les problèmes dans ma vie, frère. J'ai tous les problèmes dans ma vie. Et par courtoisie, je l'invite à venir manger avec moi. Et on touque, il touque, je touque. Une fois, deux fois, chacun touque. À un moment, mon téléphone sonne. Et je lui remets le plat. Que tiens un peu, le temps que je... Il y a des erreurs que Dieu ne doit pas faire dans ta vie. Ah, vraiment, vous ne voulez pas qu'elle continue mon message. Donc, au moment où je retourne la tête, je vois qu'il a ramené le plat vers lui et sa femme. Je comprends que je suis exclu. Et ma Caro regarde ça, ça la choque. Je fais seulement ça, laisse tomber, c'est le repas. Alléluia. Et le même son devait rentrer sur Douala. C'est là chez maman Caro que j'apprends que le bus doit partir à 18h. Et que lui, il n'avait pris aucune disposition pour mon retour. Donc, je donne l'argent à un des enfants de maman Caro qui n'a pas payé mon ticket au même moment. Parce que le bus partait à 18h. Et sa femme, et quand on rentre à 18, quand on rentre à 17h pour qu'il récupère mon sac, c'est là où sa femme dit, ouais, mon pasteur, c'est maintenant qu'ils sont en train de mettre quelque chose au feu pour toi. J'ai dit, non, laisse. Ça a été mon voyage le plus difficile. J'ai vu les étoiles dans l'avion, dans le bus, frère. J'ai, en route, la nuit, on voit la nuit, il y a quoi à manger sur cette route? C'était au début de la crise. Tout le monde fuyait. Et les bus voyageaient en groupe. Il ne fallait pas s'éloigner les uns des autres. Donc, il y avait un seul arrêt. Et l'arrêt là, c'était que les biscuits. J'ai acheté pour 500. Manger les biscuits. Pas léger. Alléluia, vous n'avez pas fait la publicité. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à maman, sors tout ce qui est dans ta mamite. Hein? Alléluia. Alléluia. Et donc, quand je suis parti de là, ce prophète a pris le temps de me calomnier chez chacun des frères et chrétiens dans la vie duquel Dieu m'avait donné une parole de connaissance. Amen. Et chacun le reprenant disait, non, ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Et ce qui est incroyable, c'est que la dame qui m'interprétait, aujourd'hui, elle a une grande église ici à Boya, celle qui m'interprétait, alléluia, et le jour-là, pendant qu'elle m'interprétait, je me suis tourné vers elle. J'ai dit, toi-là même qui m'interprète, ton mari est en train de venir des États-Unis. Elle est tombée, elle a laissé le micro tout. Tout le monde dit, mais qui va interpréter? Je vais interpréter moi-même. Le temps qu'elle se réveille. Et cette dame, quelques mois plus tard, elle est partie à Boya. Et nous avions un pasteur ami commun. Un pasteur en commun, le prophète Audrey. Elle est allée chez le prophète Audrey raconter un peu son séjour, raconter un peu cet incident parce que ça l'avait choqué. Que nous avons reçu un grand pasteur là, des doigts là, il a fait des choses, Dieu l'a utilisé, mais notre pasteur n'a cessé de le calomnier. Et c'est pourquoi dans la marche chrétienne, il faut avoir des amis loyaux. Amen. Des amis loyaux. Et il lui a dit, mais c'est qui? Elle cite mon nom. Et il dit que mince. Et heureusement, avant, quand je rentre, je lui raconte aussi ma version. Il dit que, frère, vraiment, j'ai vécu une scène, mais je ne veux pas te dire la suite parce que ce n'était pas trop intéressant. Je voulais te mettre en contact avec ce prophète. Vraiment, oublie. Oublie. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'à la fin, cette dame lui dit, il s'appelle tel. Elle dit, ah, Il dit, ah, est-ce que tu permets que j'enregistre ce que tu dis? Elle dit, il n'y a pas de souci. Et il enregistre la conversation. Il fait enregistrer la conversation. Il lui pose des questions, elle répond. Et je reste comme s'il m'envoie l'audio. Il dit, écoute ton séjour de Bamenda. C'était la catastrophe. Quand ce prophète a su, il était dépité. Vous savez quoi? Je l'avais mis en garde contre beaucoup de choses et même contre les Amber Boys. Il avait dit, attention, Dieu m'a dit que tu fasses attention à ça, 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 parce que je les vois venir te chercher. Et lui, quand j'étais là, il faisait, non, vraiment, les Amber Boys, il faut que vraiment le gouvernement... J'ai dit, calme-toi, ce sont des forces sataniques. Quand ça va entrer ici, tu vas comprendre. Et ça n'a pas fait 2 mois quand je suis quitté de là. Il allait à l'église, il a fini le culte. 2 équipes de Amba sont entrées. Première équipe est venue le chercher. Deuxième équipe se sont croisées en route jusqu'à ils étaient prêts à s'affronter avec les armes. Que non, il est notre otage. L'autre dit non, il est pour nous. L'autre dit non, il est pour nous. On l'a disputé. Après l'autre camp est parti, on l'a amené en brousse. Et c'est encore nous qui avons contribué pour soutenir, pour qu'on le sorte de là où il était. Et quand il est sorti, il a dit, ah, broda, il faut qu'il vienne à Douala. Il a dit, merci à l'église. J'ai dit, non, l'église a compris ton merci. Alléluia! Vous voyez? Beaucoup de gens ne comprennent pas l'ampleur du travail qui est la nôtre. Alléluia! Et qu'il va falloir parfois, un pasteur ne peut pas tout faire. Vous voyez? C'est pourquoi de temps en temps, je peux inviter tel pasteur au milieu de nous pour qu'il ajoute sa main d'association sur le travail que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi lorsque tu viens même à moi et que je dois prier pour toi, je prends en considération la prière que, du pasteur où tu étais avant d'arriver à moi. Parce que je ne fais que compléter ce travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Je pose ma pierre et Jésus arrose tout. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que Jéthro va venir donc lui donner ce conseil de décentraliser les choses, laissant les affaires importantes à Moïse et les plus petites à ses collaborateurs. Vous voyez? Un management efficace implique le partage des tâches. Le partage des tâches. C'est biblique. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Exode 18, le verset 21. Un management efficace implique supervision et affirmation. Supervision et affirmation. Exode 39. Le verset 42 à 43, Exode 39, 42 à 43, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Moïse examina tout le travail. Vous voyez, le leader, un bon leadership va superviser et confirmer le travail. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse l'a béni. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le travail que je vais confier à Papa José, que les gens vont venir faire les travaux comme depuis, ils sont en train de monter là en haut, ils sont en train de préparer la toiture. Je reviens vérifier moi-même, parce que j'ai une vision que Dieu m'a donnée. Et on ne peut pas faire en dehors du plan que Dieu a donné. Il est arrivé plusieurs fois. Vous savez, dans le plan originel de ce temple, la salle technique était là. La salle technique était là. Et là étaient les toilettes. Et un jour, on faisait le contrôle. Et j'ai fait inviter le petit frère de Papa José qui est venu regarder. Et j'ai dit, dis-moi ce que tu penses. Et il m'a dit, parce que je pense que tu dois inverser les choses. J'ai dit, inverser tout. Inverser tout. La salle technique va de l'autre côté. Et ceci devient un bureau provisoire. Alléluia. Et à chaque moment, il est arrivé que j'arrive ici, je vois, ils avaient monté un mur, ils ont dit non, cassez le mur ici, mettez-moi une porte ici. On dit non. C'est quoi l'ingénieur des travaux de ce temple s'il dit toujours, je n'ai jamais fait un chantier où chaque jour on modifie. Et le chargé des travaux, Auguste, quand il décide que, qu'est-ce que Dieu a encore dit? Un païen qui dit que qu'est-ce que Dieu a encore dit? Alléluia! Parce qu'il est déjà dépassé. Il dit que Dieu a dit que quoi? On laisse le mur ici. Il a dit que Dieu a dit qu'on laisse le mur. Ton problème, c'est quoi? Alléluia! 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 Mes bien-aimés, c'est important ce que nous sommes en train de dire. L'aptitude au management est un des dons de Dieu. C'est un des dons de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Romains 12, le verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez ici que l'aptitude de manager les gens, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Les managers efficaces admettent aussi leurs propres limites. Leurs propres limites. Deutéronome chapitre 1, le verset 9. Moïse, un jour, devant la grandeur des travaux et de la charge du ministère, il va dire, dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. Deutéronome chapitre 1, le verset 9. Je ne puis pas à moi seul vous porter. Alléluia. Vous allez voir des super leaders. Il dit, non, je peux arriver à faire ça, je peux. Il ne décentralise pas et demain, il ploie sur le fardeau et ça le fatigue. Tu dois pouvoir parfois admettre que là, je ne peux pas. Faites-le. Je viendrai plus tard vérifier chaque chose. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé des fois où, fatigué, épuisé dans mon âme, dans mon esprit, peut-être attaqué par une maladie, j'ai dû déléguer les charges. Je fais comment? Récemment, quand on était à Bangui, je ne pouvais pas être au même endroit au même moment. Alléluia. Il fallait absolument remettre la responsabilité à d'autres personnes. Et c'est ça. Admettre que tu ne peux pas être partout à la fois. Il y a des pasteurs que je connais, quand ils te délèguent, à distance même, à chaque minute, ils disent, tu fais quoi dire? Tu ne dis pas tes mots, tu dis ces mots. Alléluia. Donc tu deviens une caisse de résonance. Tu deviens une caisse de résonance. Chaque fois que tu parles, ce n'est pas tes paroles, ce sont ses paroles. Il t'interdit de réfléchir. Il t'interdit d'avoir des révélations. Tout ce que tu as dit, c'est ce qu'il t'a dit. Répète seulement. Perroquet. Alléluia. Et les bons leaders font des plans à l'avance. Dans la Bible, Luc chapitre 14, le verset 28 au verset 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, voici il y a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Voilà. En parlant de prévision, il nous faut encore 3 millions pour finir notre temple, la toiture. Donc on espère compter sur vous encore. Alléluia. Et c'est urgent. D'ici la fin du mois, on doit pouvoir boucler le budget pour la toiture. Vous voyez les pluies qui sont en train de menacer. Alléluia. Nous devons avancer. Que le Seigneur pourvoie dans vos poches au nom de Jésus. Alors, une autre qualité essentielle d'un leader, l'écoute. Dis avec moi l'écoute. Dis avec moi l'écoute. Vous voyez? Pour bien reconnaître la racine d'un problème, le leader doit avoir la capacité d'écouter. Beaucoup savent parler et donner une réponse, mais peu savent d'abord écouter. Et pour écouter, il faut devenir un ami. Vous savez, une des choses qui séduit une femme chez un homme, c'est sa capacité à écouter. Alléluia. Un homme qui parle plus qu'il n'écoute fatigue une femme. Alléluia. Fatigue. Mais quand tu as l'oreille disponible, tu auras une épaule adéquate. Alléluia. Alors, pour écouter, il faut devenir un ami. Alors, je nous donne cette facette de l'amitié selon la Bible. Amen. Cette facette de l'amitié selon la Bible. Et je vous conseille d'aller lire 1 Samuel chapitre 19, 1 Samuel chapitre 20. Ça parle de l'amitié de David et de Jonathan. Alléluia. 1 Samuel 19, 1 Samuel 20. Lisez tous ces deux chapitres. Vous allez aimer. Alléluia. Alors, et donc 1 Samuel chapitre 20 et son contexte, vous allez bénéficier au maximum de cette méditation que nous sommes en train de faire. Alors, cette facette de la véritable amitié que le Seigneur nous donne pour jouir de la joie, du soutien, du réconfort, de la sanctification entre chrétiens. Premièrement, les amis selon la Bible ont la communion avec Dieu en commun. Ont la communion avec Dieu en commun. Amos 3:3, la Bible nous dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne regardent pas dans la même direction. S'ils ne se soient accordés, l'accord est primordial. Tu ne peux pas accorder si vous n'avez pas défini l'ordre l'ordre du jour de votre relation. Alléluia. Tu ne peux pas. 1 Samuel chapitre 20, le verset 42. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Vous voyez, David et Jonathan étaient tous deux des fidèles de l'Éternel. Ils ont juré selon l'Éternel. L'autre n'a pas juré selon Baal, les sorciers de son village, les crânes de son village, et l'autre a juré selon l'Éternel. Alléluia. Et on est ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe au chapitre 20? Au chapitre 20, c'est que David rend visite à Jonathan et expose sa situation, le danger de sa vie à Jonathan. Il lui dit, écoute, ton père me déteste et ton père veut me détruire. Et Jonathan va dire, non, je suis tellement proche à mon père qu'il ne peut pas faire un projet sans m'en parler. Il dit, non. Parce que ton père connaît l'amitié qui est entre nous deux, celui-ci t'a caché. Et donc, il y avait une grande fête au palais. Et David va dire, ok, on va procéder à un test. Tu vas vérifier, tu vas éprouver ton père. Et si je me trompe, tant mieux pour nous. Si je ne me trompe pas, vraiment, permets-moi de me retirer. Et David et Jonathan vont donc convenir d'un plan. Et il va dire, écoute, demain, il y a une fête. La nouvelle lune, ça fait 3 jours. Le premier jour, le roi certainement ne me demandera pas. Mais le deuxième jour, il va me demander. S'il me demande et que tu dises non, David s'est excusé pour aller faire le sacrifice dans sa famille. Alléluia. Et qu'il le prend normalement, il dit ok, il n'y a pas de problème. Et qu'il continue la fête, ça veut dire ma vie n'est pas en danger. Mais si il demande et que tu lui réponds de la même manière et qu'il se met dans une grande colère, ma vie en danger. Il dit, et comment je vais donc t'avertir? Il dit, c'est simple. Je vais me cacher dans ce champ. Lorsque tu viendras, Jonathan dit, lorsque je vais venir, je vais tirer une flèche. Le garçon qui va aller récupérer la flèche, je vais tirer la flèche. Si je tire la flèche qui va tomber avant là où tu es caché, ça veut dire que ta vie n'est pas en danger. Mais si la flèche te dépasse, c'est que ta vie est en danger. Il faut fuir. Alléluia. Et c'est là alors qu'ils vont jurer fidélité l'un à l'autre. Et la Bible dit qu'ils vont avoir de la peine à se séparer parce que David aimait Jonathan comme son âme. Et ils vont s'en aller. Et le premier jour de la fête, le papa Saül ne va pas demander, il va se dire, bon, ok, certainement, il était impur. C'est pourquoi il n'a pas pu venir à la fête avec nous. On va voir le deuxième jour. Le deuxième jour, David n'était pas là. Et le roi va donc demander à tout le monde, où est David? Tout le monde est là, tous les hommes de guerre, tous les généraux sont là. Et Jonathan va donc dire, écoute papa, voilà l'excuse, voilà la permission que j'ai accordée à David. Et la Bible dit, Saül va se mettre dans une grande colère. David va dire, toi-même tu es l'ennemi de ta propre destinée. Voilà ton adversaire, tu le couvres, tu couvres ton adversaire. Et Jonathan va essayer de prendre la défense de David. Et Saül, dans la colère, va retourner sa lance sur lui. Et là, il va comprendre que David est mort. Vous voyez? Il va comprendre que David est mort. David, ce n'est même pas le genre. David est mort. Et donc, comme je vous ai expliqué, le plan pour informer David, c'est comme ça qu'il va informer David. Et David, quand le garçon va aller chercher la flèche qui était tombée loin, il va dire, rentre au palais, et il va rester, il va embrasser David, il va dire vraiment. Et c'est là où ils vont faire ce verset, ils vont jurer l'un à l'autre fidélité devant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, dans nos vies, nous pouvons probablement remarquer que nos amitiés les plus profondes sont avec des personnes partageant les mêmes convictions essentielles sur Dieu et sa parole. Les mêmes convictions. Alors si cela nous dit encore une fois de plus que tu ne peux pas avoir une véritable amitié avec quelqu'un qui est dans le monde, parce que vous aurez toujours des limites de la conversation. Vous serez toujours confronté à un problème. Ah, toi et ton Dieu là, pardon, il faut arrêter un peu. Quand on parle les vraies choses, laisse Dieu de côté. C'est quoi ton problème? Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit une fois que je suis allé pour un deuil dans mon quartier de naissance et tous mes amis d'enfance étaient là. Mais quand ils m'ont vu arriver, tout le monde a bu Malta. Alléluia. On est venu, on dit, vous buvez quoi? Malta, Malta, Malta. Moi, mais c'est que personne ne boit Malta normalement. Mais à cause de moi, après l'un d'eux, il dit, mais pasteur, tu ne rentres pas. C'est quand il va rentrer que la vraie veillée du deuil va commencer. Alléluia. Je bloquais les gens. Et c'est ça un peu. Il y a des amis avec qui tu as marché dans l'enfance. Quand ils te voient débarquer, ils savent que leur journée est mauvaise. Parce que tu vas les empêcher, ils ne peuvent plus parler des femmes avec toi. Si tu venais, ils étaient en train d'admirer le bocho d'une femme là-bas. Tu vois, quand tu vas arriver, ils vont commencer à dire, il est là. Vous parlez de quoi? Ah, on parlait de la lune et du soleil. Hein? Tu sais que les deux astres là, l'un est plus gros que l'autre. Alléluia. Tu gâtes le réseau des gens. C'est la même chose avec les filles. Hein? Dès que tu entends parler de conneries et que toi tu es chrétienne et tu as débat, on dit, ma pasteur est là, la mère de Jésus. La mère de Jésus est là. Oh, Saint-Esprit est là. Donc on te charrie un peu comme ça. Alléluia. Je fais comment? Vous voyez? Donc, il est donc aussi possible que nous ne puissions plus être des amis proches avec certaines personnes tant elles détestent Dieu et pratiquent le péché. Alléluia. Il y a des amis que tu ne peux plus être ami avec eux ou avec elles tout simplement parce qu'elles refusent de sortir de là où elles sont, où ils sont. Alléluia. Et c'est là où Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut sortir de là. Deuxième facette de l'amitié selon Dieu. Les vrais amis ne sont pas centrés sur eux-mêmes. Amen. Les vrais amis ne sont pas centrés sur eux-mêmes. Jonathan était l'héritier au trône de Saül, son père. Mais Dieu en avait décidé autrement. David, son ami, avait été oint par le prophète Samuel pour devenir le roi à la place de Saül. Jonathan était l'homme qui ne serait pas roi. Et il le savait pourtant. Il l'avait accepté comme la volonté de Dieu sans aucun ressentiment envers David. Sans aucun ressentiment. Aujourd'hui... Si le frère c'est à l'opposé, c'est à l'église. Et il sent que l'autre ci est en train de on va lui, bientôt on va dire à celui-là de prendre son poste. Il va chercher comment le calomnier. Dans l'église, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui demeurent des chrétiens. Alléluia. Qui demeurent des chrétiens tout simplement. parce qu'ils refusent de changer dans leur caractère. Alléluia. La vraie amitié pense d'abord à l'autre. Pense d'abord au bien de l'autre. Pense d'abord à l'élévation de l'autre. Pense d'abord aux intérêts de l'autre. Alléluia. Et ce, dans les deux camps, hein. Parce qu'il y a des amitiés où tu penses que, tu penses pour le, au bien de l'autre, lui, il pense le mal pour toi. Ça, c'est la, le satanisme. Version rapide. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Jonathan n'était pas égocentrique et séduit par le pouvoir et la richesse terrestre. Il est impossible d'être un ami proche avec une personne égocentrique parce qu'une amitié n'existe que si elle va dans les deux sens. Alléluia. Par conséquent, une personne égocentrique, auto-absorbée, qui ne vit que pour elle-même, ne peut être l'ami de personne. L'ami de personne. Voyez? La Bible dit dans le livre de Proverbes 19, 4 à 7, Proverbes 19, 4 à 7, il dit, la richesse procure un grand nombre d'amis. La richesse procure un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est séparé de son ami. Vous voyez, la pauvreté aussi est un danger pour les amitiés. L'argent est un danger pour l'amitié. La pauvreté est aussi un danger pour l'amitié. L'argent ne te donne pas assez de discernement dans l'amitié. L'argent ne te donne pas assez de discernement. La pauvreté elle-même te sépare des amis. Alléluia. Et il continue en disant, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Quand tu fais des cadeaux à tout, quand tu es comme le homme loi, alléluia, tu as beaucoup d'amis. Quand tu fais, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu fais des cadeaux à beaucoup de gens, comme Bomda, alléluia, tu as beaucoup d'amis. Mais le jour qu'on t'attrape, tu es seul, non? Est-ce que je peux avancer? C'est ça. Il dit beaucoup de gens flattent. Ça dit que quand tu as les, quand tu fais des présents, tu as beaucoup de chinda. Oh, maman Dani Blanche. Oh, oh. Donc quand tu rentres, on chante tes louanges. Chaque jour, il y a ta musique qui sort. Alléluia. L'autre jour, je lisais l'interview d'un chanteur ivoirien. Et on lui posait la question, est-ce que DJ Drogba est ton ami? Et il a dit que non, DJ Drogba n'est pas mon ami. DJ Drogba n'est pas mon ami. Même comme il fait l'amitié de m'inviter dans sa maison, je suis parmi les privilégiés d'être dans sa maison. Mais ce n'est pas mon ami. C'est mon Dieu. Alléluia. Alors j'explique. Est-ce que je peux expliquer? Et il dit ceci, et ça m'a marqué. Il dit que au moment où j'ai commencé à chanter pour DJ Drogba, les gens avaient arrêté de chanter pour lui. Les gens avaient arrêté de chanter son nom. Alors que c'est une légende. On doit chanter son nom tout le temps. Les gens avaient arrêté. Peut-être qu'ils avaient d'autres directions. Et moi, j'ai trouvé qu'il fallait chanter cet homme. Il fallait célébrer pour tout ce qu'il nous a apporté en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment-là, j'étais le seul et il m'a identifié. Tu vois, il est devenu un grand griot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez, il dit, la suite du verset, il dit, tous les frères du pauvre le haïssent. Bien-aimé, ne sois pas pauvre dans ta vie. Je te sépare de la pauvreté. Il dit, tous les frères du pauvre le haïssent. Quand tu es pauvre, on te hait pour rien. Je te sépare de la pauvreté. Au nom de Jésus. Il dit, tous les amis du peuple le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il lui adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. C'est-à-dire que même ses amis disent, ouais, vous ne restez pas avec moi. S'il vous plaît, restez avec moi. Vraiment, je vous aime. On dit, non, Flocan, tu nous contamines. J'ai un de mes amis, son père était un ancien riche. Bon, il a encore un peu. Alléluia. Et c'est mon ami d'enfance. Et un jour, on discutait avec son papa au salon comme ça. C'est les premiers dans la maison duquel j'ai vu la parabole. Alléluia. C'est là-bas que nous, on partait voir la parabole, Canal Plus. Alléluia. On partait là-bas chez eux. C'est là-bas chez eux que nous, on décrochait notre téléphone quand on nous appelait. En fait, tout le quartier décrochait le téléphone là-bas. Alléluia. Leur numéro de téléphone était le téléphone de tout le quartier. Alléluia. Amen. Donc, quand tu allais décrocher ton téléphone, tu te lavais. Parce qu'on lavait le sol là-bas. Il ne fallait pas salir le sol. Tu te laves. Je raconte mes histoires. Vous croyez que j'ai vécu des histoires, hein? Et tu te lavais parce qu'il ne fallait pas gêner les gens. Et tu portais un bon habit. Alors que la maison était à côté de la nôtre. Et donc, un jour on discutait comme ça et je lui ai posé la question. Ah papa, est-ce qu'un pauvre peut être l'ami d'un riche? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit que jamais. Il a dit pourquoi? Il dit je vais t'expliquer. Quand un riche a un ami pauvre, le pauvre va tout faire pour qu'il devienne pauvre et lui devient riche. J'ai dit, hein? Il dit oui. Il va tout faire. Et ça m'a marqué. Il dit, c'est pourquoi le riche marche avec le riche. Le pauvre marche avec le pauvre. Et c'est aussi pourquoi, pour avoir une mentalité de riche, tu dois marcher avec ceux qui sont riches. Amen. Alléluia. Si tu es pauvre, que Dieu t'enrichisse au nom de Jésus. Que Dieu t'enrichisse au nom de Jésus. Voyez, l'amitié selon Dieu ne demande pas que puis-je acquérir dans cette relation, mais plutôt que puis-je donner dans cette relation. Comment puis-je être un excellent ami pour la gloire de Dieu dans la vie de mon frère? Et suivant les ordonnances du Christ, nous devons aimer nos amis comme nous-mêmes, à l'exemple de Jonathan envers David, car il aimait comme son âme. 1 Samuel chapitre 20, à partir du verset 16 au verset 17. Troisième facette de l'amitié selon Dieu. Les amis, selon Dieu, ont un amour sacrificiel l'un envers l'autre. Ont un amour sacrificiel l'un envers l'autre. Vous voyez? Je vous ai raconté tout à l'heure, 1 Samuel chapitre 19, 1 Samuel chapitre 20. Saül avait déjà essayé de tuer David à plusieurs reprises. Et Jonathan a failli lui-même mourir en défendant à nouveau la cause de son ami devant Saül. 1 Samuel chapitre 20, le verset 33. La Bible dit, Saül jeta sa lance contre lui pour le frapper parce qu'il avait pris la défense de David. Et Jonathan connut que c'était chose décidée de la part de son père de faire mourir David. Les amis, selon Dieu, ont un amour sacrificiel, mutuel. Et c'est ce que Jésus va dire dans Jean 15, le verset 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Pour ses amis. Jean 15, le verset 13. Les vrais amis ne nous laisseront pas tomber, surtout dans les moments difficiles. Proverbe 17, le verset 17. Il dit, l'amour aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Vous voyez? C'est pourquoi dans les moments difficiles, un ami peut devenir un frère. Dans les moments compliqués de ta vie, il y a des amis qui deviennent des frères. Ta souffrance, vous devez savoir que le sang a la même valeur que la sueur. Hein? Le sang a la même valeur que la sueur. Alors quand quelqu'un coule la sueur sur toi, c'est ton vrai ami. Alléluia. 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 Proverbe 18, le verset 24. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup de faux amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Alléluia. La vraie amitié, selon Dieu, se manifeste par des paroles et des actions lorsqu'un ami a besoin d'aide. Voici un exemple de la fidélité des amis. Dans le livre de Proverbe, chapitre 27, le verset 10. Proverbe 27, le verset 10. Il dit, n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mieux vaut un voisin proche. Même la Bible dit ça. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir des bons voisinages. Il faut avoir des bons voisinages. Tous les voisins, c'est sorciers, vampires. Attends que le feu, c'est pas le feu n'a pas encore pris dans ta maison. Les premières personnes qui doivent venir intervenir, ce sont tes voisins. Attends que toi, tu as un choc dans ta santé physique. Les premières personnes à intervenir quand tu vas dire au secours dans ta chambre, ce sont tes voisins. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce dernier verset signifie simplement que les vrais amis sont parfois beaucoup plus proches qu'un membre de la famille. Beaucoup plus proches qu'un membre de la famille. Aimons comme Christ nous a aimés. Quatrième facette de l'amitié, selon Dieu. Les vrais amis sont engagés émotionnellement dans la vie d'autrui. Sont engagés émotionnellement dans la vie d'autrui. Alléluia. 1 Samuel chapitre 20, à partir du verset 41. La Bible dit, les deux amis s'embrassèrent et pleuraient ensemble. David surtout fondit en larmes. Quand il fallait se séparer, quand il s'est rendu compte que, Jonathan s'est rendu compte que David était en danger. Alléluia. Et qu'il ne pouvait plus, certainement ne pas voir David. Ne plus voir David. Alors ils ont fondu en larmes. Ces larmes venaient du cœur d'un ami qui s'était engagé émotionnellement dans la vie de son frère, dans la foi. L'apôtre Paul vécut aussi une telle expérience avec les anciens de l'église d'Éphèse. Alléluia. Une assemblée qu'il avait implantée lui-même. Dans le livre des Actes, chapitre 20, le verset 36, au verset 37, Paul dit, Paul s'est mis à genoux et il pria avec eux tous et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Alléluia. Vous voyez, l'amitié émotionnelle. Ce type d'expérience n'arrivera jamais dans une église où les chrétiens sont distants, non impliqués dans la vie d'autrui, non vulnérables et ouverts les uns aux autres pour se soutenir matériellement, moralement et par la prière. Ce genre d'atmosphère d'expérience ne peut pas arriver dans la vie d'une église dans laquelle les chrétiens ne se rendent même pas visite. Ils se tamponnent à l'église. Ils sont dans le même département mais ils ne se visitent jamais. Si tu lui demandes la maison de tel qui est avec toi dans le même département, c'est où? Il va dire, ah, je sais que la maison là-bas avec Dakar. Dakar, c'est où? Alléluia. Hein? Je sais que sa maison, un jour j'ai entendu, elle a dit qu'elle est vers Misoké, là-bas vers le marché, mais je ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'un jour, elle m'a dit que si tu arrives vers Noblesse, elle n'est plus loin. Alléluia. Ce n'est pas une description. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est qu'un jour, elle a dit qu'elle est en face de Monde Uni là-bas. Tu arrives, il y a un endroit qu'on appelle Domino. Tu l'appelles. Ce n'est pas une description. Tu es dans le même département. Tu attends que le jour de culte pour demander la nouvelle de l'autre. Vous êtes dans le même département. Quelqu'un, tu ne vois plus la même personne. Tu ne prends pas de ses nouvelles. Tu dis non, c'est la désobéissance. Comme elle n'est pas venue, on va la sanctionner. Toi, tu es seulement gendarme. Amen. Vous voyez? Tout ça, c'est l'écoute. Tout ça, c'est l'écoute. Le problème dans les départements, le problème dans les équipes, c'est que personne, un leader qui veut avoir une bonne atmosphère dans une équipe, doit avoir une oreille et qui écoute. Qui écoute, écouter, ça ne veut pas dire les bruits que les gens font. Écouter, ça veut dire être sensible à la vie des gens autour de soi-même. Alléluia. Tes yeux ne doivent pas seulement regarder ce qu'ils disent, mais comment ils le disent. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Comment ils le disent? Hier, tu as parlé comme ça, mais tu n'as pas parlé avec le même. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un souci? Pourquoi tu dis ça comme ça? Non, c'est que... Non, ma soeur, si tu as un problème, dis-le-moi. On va le porter ensemble dans la prière. Alléluia. Va le porter tous les deux. C'est pourquoi beaucoup sont comme à la piscine de Bethesda. 35 ans, personne n'a jamais demandé, tu fais quoi là? Tu as un problème, ma soeur. Bethesda, c'était l'église, c'était la maison. On appelle Bethesda la maison de la miséricorde, l'église. Et ça avait cinq portiques, la grâce. La grâce était dans cette église. Mais il y avait quelqu'un qui souffrait 35 ans. Jamais on lui a demandé, ton problème c'est quoi? Comment on peut t'aider? Comment on peut te soutenir? C'est pourquoi il a dit à Jésus, le pasteur par excellence, il n'y a personne dans cette église qui ne s'est jamais intéressé à ma situation. Le jour que tu meurs, c'est toute l'église qui a ton deuil. Hey, la sœur là, vraiment, je ne la maîtrisais pas bien. Je la remarquais, elle était toi, là-bas assise, toujours un peu retirée là. Vraiment, donc elle souffrait comme ça. Ça devient un sujet de commérage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Encore aujourd'hui, Jésus doit venir dans nos églises. Parce qu'il y en a plein qui sont couchés avec des blessures. Il y en a qui sont couchés avec plein de douleurs dans leur corps. Mais personne. Tout le monde est préoccupé par lui. Mon problème, je dois voyager, je dois me marier, je dois. Et ton frère à côté, tu ne sais pas qu'en prenant le sujet de ton frère, Dieu exauce ta part. Ah, on ne dit plus amen alors. Donne-moi un bon amen, je continue. Quand ça te touche, ton amen devient bizarre. Hein? Tu es suspect. Donc ça te concerne. Dis Seigneur, sauve-moi. Voilà. Vous voyez? Quelle joie au contraire d'expérimenter la vraie communion fraternelle. Et cela commence par vous et moi qui aimons inconditionnellement, dialoguons et invitons chez nous des chrétiens que nous ne connaissons pas encore très bien à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, les pentecôtistes ont maintenant trop de problèmes. La sœur peut venir avec ses démons chez moi. La sœur, quand ça ancre, tu es au courant. Alléluia. L'amour est la plus grande de toutes les forces. L'amour. Un jour, il y a une sœur qui est entrée dans mon bureau et m'a dit, pasteur, j'ai pris le temps de rester au milieu de vous. Et je me suis rendu compte, chaque fois que vous arrivez à l'église et que vous me voyez, vous prenez tout le temps à la fin de me demander, ça va? On ne m'a jamais demandé, ça va? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi à la fin du culte je reste là, je prends un par un? Vous croyez que c'est parce que j'ai envie de vous saluer, vous tous? Non. Ce petit contact est important pour certaines personnes. Alléluia. Ils rentrent. On échange même une minute. Je dis, ça va. Ah, papa, il y avait telle situation. Je dis, ça va. Tu es au courant. Va voir papa et maille prier avec toi. Wow. Tu as rechargé la batterie de la personne. Tu as rechargé la batterie de cette personne. La semaine sera glorieuse pour elle. Et tu finis ton cul, tu portes ton kaku. Comme un vendeur de macabo, tu pars où? Tu ne salues personne. Tu es trop important. Alléluia. Tu vois une soeur qui passe au quartier, tu te caches. Alléluia. Alléluia. Ah, on a tout vu. Est-ce que je peux continuer? Je dis, pasteur, ma soeur, ouais, passe, viens un peu visiter. J'habite ici à côté. Viens voir un peu la maison de ta soeur. Tu ne peux pas passer aussi, tu passes à côté de ma maison, j'habite ici. Alléluia. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle. Chaque fois que tu passes, arrête-toi. Je suis ici. Amen. 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 Cinquième facette de l'amitié. Les amis, selon Dieu, ont un respect mutuel. ont un respect mutuel. Vous voyez? Selon la coutume de respect de son époque. 1 Samuel chapitre 20, le verset 41. La Bible dit, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois devant Jonathan. Son ami, il s'est prosterné 3 fois devant Jonathan, devant David, Jonathan. Alléluia. Ce faisant, David montra du respect pour son ami Jonathan qui était prince. Alléluia. Même dans l'amitié, n'oublie pas le grade de celui qui est en face de toi. Ah, tu n'as pas compris. Vous voyez, dans l'amitié, on mélange tout. On mélange tout. Tu oublies que c'est ton patron. Tu oublies que c'est ton boss. Dans cette amitié, David n'avait pas oublié que c'était le prince. C'était le prince et son père est au pouvoir. David n'avait pas oublié que hiérarchiquement, il lui devait du respect. David n'avait pas oublié que c'était en d'autres termes son patron. Alléluia. Et si tu te retrouves dans le même endroit avec ta soeur en Christ, qui est ton chef quelque part, hé hey, ma soeur, alléluia, frère, tu oublies que c'est ton chef, tout le monde est chef, tu viens, ma soeur, viens, soeur, hey, Dieu m'a donné une révélation sur toi, hein? Bah, à l'église, alléluia, bah, à l'église. Ne fatigue pas. On est ici dans le domaine professionnel. Laisse les visions à l'église. J'ai eu une vision sur toi. Tu as trop d'ennemis. Tu as trop d'ennemis. Hey, mais c'est normal, on est dans le milieu professionnel. On a toujours les ennemis. Ce n'est pas nouveau. Mais si tu écoutes ce genre de révélations, tu vas avoir un fonctionnement de méfiant. Et la méfiance n'est pas de Dieu. La prudence est de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous racontais récemment un ami, j'ai un de mes amis, un ami pasteur, un collègue pasteur, qui est cadre à la CNPS. Il est cadre. On vient de l'affecter à Maroua là-bas. Et il me racontait, il me dit que tu imagines, il y a une sœur en Christ qui a su que je suis pasteur. Chaque fois que je passe dans son bureau, qu'elle sait que je passe, elle ouvre la Bible sur son bureau. Et c'est ma collaboratrice la plus proche. Et on nous a donné un travail dans le département et je dois m'appuyer sur elle. Mais elle prend du retard. Chaque fois qu'elle vient, elle ouvre la Bible. Elle dit, tu as fait comment? Il dit, j'ai fermé la Bible. Je lui ai dit, moi, je suis la Bible. Que sur la Bible, si tu ne fais pas le travail, je te sanctionne. Alléluia. Et la sœur dit, hey, vraiment, le pasteur n'a pas cru. Il n'a pas cru. Parce qu'on ne tolère pas tes bêtises, on n'a pas cru. C'est l'igname. Alléluia. Tu n'as pas cru, tu n'as pas cru. Et c'est ça le problème. Quand vous reprend dans votre aspect autre que l'église, vous trouvez qu'on n'a pas cru. Alléluia. Si tu rentres, tu es seul en Christ, tu viens avec Danny Blanc, vous lancez un projet d'affaires. Amen. Il faut mettre d'abord l'enfant de Dieu de côté. Hein? C'est le business. Amen. Les principes de Dieu doivent gouverner ce business, c'est-à-dire l'honnêteté, l'intégrité, la vérité, la droiture. Est-ce que vous comprenez bien? Mais maintenant, on ne doit pas utiliser les émotions pour anaquer l'autre. Un jour, Dany Blanche a fait confiance à un jeune garçon. Elle a acheté une moto, elle lui a fait confiance. Il est venu, il a pleuré un peu à côté d'elle. Elle a dit que, ok, j'ai une moto ici, je peux t'aider. Alléluia, en d'autres termes, on s'aide, on fait un peu le yango avec cette moto, tu as ton profit, j'ai le mien. Va venir quelqu'un qui va valider, qui va t'avaliser. Le gars allait chercher sa mère, et sa mère est Panteco. Alléluia. sa maman. Donc, quand Dani voit ça, elle est toute contente. Elle dit, waouh, ma soeur en crise. Ok, ça va. Ok, ça, on avance. Le jour où le gars est sorti avec la moto, il n'est plus rentré. Il n'est plus rentré. Et un matin, Danny Blanc débarque dans mon bureau avec la dame, la mère. La mère a pleuré dans mon bureau. J'ai dit que non, maman. Vous savez, c'est un projet d'affaires. Si le gars là ne fait pas, Dieu va le frapper. Et on va prier pour que Dieu le frappe parce qu'il est malhonnête. Elle ne peut pas investir autant d'argent et quelqu'un se permet. J'ai dit donc, tu connais Dieu. Tu as dit que tu connais Dieu. Elle dit oui. J'ai dit que donc, va dire à ton fils, cherche ton fils, mets les gens là où ils sont. Dis-lui que. Hein? Et elle est partie. Je crois qu'il était revenu avec la moto. Mais des mois après, j'avais déclaré que comme il ne veut pas venir, qu'on l'arrête. Et on l'a arrêté. Donc il n'est pas venu parce qu'il était gentil et qu'il s'est souvenu de Danny Blanc. Comme on dit, et l'Éternel se souvient de. Il avait oublié Danny Blanc. Donc on l'a arrêté. C'est là où Danny Blanc a dit merci ma moto. Et entre la mère du gars et le gars, ça a pris feu. Et elle, ça a pris feu. Vous voyez? Alors, tu ne peux pas utiliser le fait que tu es enfant de Dieu comme une excuse pour être médiocre, pour être faux, pour être manipulateur. Alléluia! Tu ne peux pas. Nous devons être sérieux. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être sérieux. C'est pourquoi la Bible dit qu'on est la tête et non la queue. On est en haut et non en bas. Alors comment vas-tu tous les jours, tu signes la tête? Ça dit que tu dois être quelqu'un de correct. Si on vient, si on trouve dans ton quartier, on trouve les personnes, on demande les personnes correctes, justes, on doit te pointer en premier. Si on te pointe en dixième, c'est que ta justice a un problème. Alléluia. Si on vient dans ton entreprise, dans ton job, et on dit les personnes intègres, et que toi tu viens en dixième position, après neuf païens, tu as un problème. Alléluia. Tu as un problème. On dit Tagne premier, c'est un grand buveur, mais il est correct. Faucam, on passe. On dit, c'est un chercheur de femmes. Mais il est correct dans son travail. Toi qui es le pasteur, hein? Joseph personnifié. Alléluia. Apôtre Paul, apôtre Pierre mélangé. Quand on parle de faux, tu es le premier. Les doubles choses, tu es dedans. Les chiffres, les micmacs dans les chiffres, tu es dedans. Il faut faire attention. Alléluia. Respect mutuel. N'oublie pas avec qui tu travailles. N'oublie pas avec qui, quel que soit le niveau de ton amitié avec quelqu'un, n'oublie pas ce qu'il représente dans la société. Alléluia. N'oublie pas ce qu'il représente dans la société. Et donne-lui son respect. Amen. Nous devons avoir un respect entier envers tous, sans exception de personne. Celui qui agit avec droiture et respect devient ainsi l'ami de n'importe qui, d'un pauvre, d'un prince ou d'un roi, tel David. Humble, le berger devenu vaillant guerrier, à l'ami proche du prince d'Israël. Vous voyez? Proverbe chapitre 22, le verset 11. La Bible dit, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Oh, que ce soit ta portion au nom de Jésus. Il dit, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. C'est pourquoi tu vas voir des gens, des collaborateurs, des responsables dans des entreprises. C'est des petites personnes. Et tu vas dire, mais comment ils font? Son cœur est pur vis-à-vis de la personne. Et quand tu es en haut, tu peux voir qui est en bas. C'est quand tu es en bas, tu ne peux pas savoir ce qui est en haut. Alléluia. Sixième facette. Est-ce que ça aide quelqu'un? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Aïe. Ça veut dire que ça vous touche jusqu'à ce que même votre amen est compliqué. Hein? Bien-aimé, toi qui nous suis en ligne, est-ce que ça te bénit même? Je ne sais pas si ça te bénit là où tu nous suis là. Alléluia. Dis-nous quelque chose. Donne-nous un bon amen. Alléluia. On est au quantième point de l'amitié. Sixième facette de l'amitié. Alors, les amis selon Dieu se disent la vérité avec amour. Je précise bien, avec. Voilà. Vous allez voir, je lui ai dit la vérité. Hein? Non, vraiment, ma vérité ne porte pas les gants. Voilà. On va y aller. Amen. Voici les paroles de David à Jonathan au début du chapitre 20. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 20, le verset 1. Et il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Regardez le respect. Regardez l'amour. Écoutez l'amour dans ses propos. Il n'accuse pas son père. Il pose des questions. Il interroge son fils. Que mon ami, qu'est-ce que j'ai même fait, non, papa? Pardon. Si j'ai fait quelque chose, pardon, dites-moi. S'il vous plaît, dites-moi. David dit la vérité à Jonathan sur ses craintes vis-à-vis de Saül, son père. Jonathan lui parla aussi en vérité quand il comprit que David avait raison au sujet du complot que fomentait son père. C'est pourquoi la même démarche que David a eue vis-à-vis du père. Il a respecté, malgré ce complot, il respectait Saül. Et cela a fait que David et Jonathan lui parla aussi avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Alléluia. Beaucoup d'amour. Il lui a dit la vérité avec amour. Vous voyez? Les amis, selon Dieu, se disent la vérité avec amour, même si la vérité n'est pas souvent facile à prononcer et à entendre. Oui, mes bien-aimés. Beaucoup de gens disent la vérité aux gens. Mais si ta vérité détruit, si ta vérité égorge, si ta vérité ruine la vie de l'autre, tu es faux, tu es méchant. Ta vérité doit construire l'autre, doit l'aider à comprendre le bien fondé de la situation et à prendre la bonne démarche. Est-ce que quelqu'un me suit? Et à prendre la bonne démarche. Le Seigneur dit que quoi? Il dit, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Regardez, celui qui avoue obtient quoi? Miséricorde. C'est-à-dire que Dieu va dans la démarche de l'amour. La vérité dans l'amour. Il ne te condamne pas. Mais nous, notre vérité, c'est pour condamner l'autre. C'est pour faire du mal à l'autre. C'est pour détruire l'authenticité et la vérité de l'autre. Je lui dis la vérité, c'est vraiment, je m'en fous de ce que ça va donner après. Tu es l'ami du destructeur. Tu es l'ami du destructeur. Même dans la vérité, il y a une manière qui sauve la vie de l'autre. Alléluia. Le plus important pour nous, c'est de sauver l'amitié et non de détruire l'amitié. Alors, si tu as des collaborateurs, chaque jour, tu les dis du n'importe quoi. Toi, je vais te dire ta vérité. Hein? Tu as une grosse tête, tu as les gros nez. Vraiment, je m'en fous de toi. C'est pas que tu n'as pas regardé ta tête. Alléluia. Pas que tu n'as pas regardé ta tête. Et que tu as une image de ta tête. Alléluia. Aujourd'hui, je vois des gens, quand ils ont un problème avec X, ils se lèvent, ils se sentent directement le droit de dire tout et n'importe quoi. Non. Tout et n'importe quoi. Hein? Tu es un vampire. Même ce qu'on ne t'a jamais dit, tu dis à l'autre. Calme-toi. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Parce que l'objectif n'est pas de détruire l'autre, mais c'est de sauver l'autre. Je rappelle, l'objectif ce n'est pas de détruire, c'est de sauver. La Bible dit même que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, du méchant. Qu'est-ce qu'il veut? qu'il se repent et qu'il vive. Alors vous comprenez que Dieu lui-même n'est pas dans la logique de détruire un homme, bien qu'il en a le pouvoir. Si Dieu lui-même n'est pas dans la logique de détruire un homme, nous ne devons pas être dans la logique de détruire l'autre. Alléluia. Même lorsque nous réprimandons nos enfants, réprimandons avec amour dans la vérité. Alléluia. Dans la vérité, il faut qu'ils comprennent, même lorsqu'ils vont grandir, même s'ils ne le comprennent pas maintenant, ils sauront demain que mon père, ma mère m'a corrigé dans la vérité et dans l'amour. Alléluia. Que même tes coups de fouet ne soient pas empreints de haine, mais d'amour. Paf, amour. Paf, amour. Paf, amour. Même quand tu gifles, ça avait amour. Paf, amour. Alléluia. Alléluia. Et on est ensemble. Quelqu'un dit, on est tous sur l'écoute. Hein? Tout ça, c'est l'écoute. Il faut que tu aies l'écoute. Parce que dans l'amitié, il faut avoir beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Sinon, tu n'auras jamais d'amis. La plus grande qualité de l'amitié, c'est l'écoute. C'est être à l'écoute de l'autre. À l'écoute de l'autre. À l'écoute de l'autre. Alléluia. Une des raisons pour lesquelles les gens aiment venir parler avec moi dans mon bureau, parce que je prends le temps de les écouter. Alléluia. Quand ils viennent, il y en a ceux qui parlent doucement, il y en a ceux qui parlent. Bon, il dit calme-toi, ça va. Tu es en sécurité. Hein? Va doucement, je vais écouter. Vous voyez? Donc le plus important, c'est quoi je dis quand je viens ici pour les conseils pastoraux, je me positionne dans l'écoute. Je prends le temps d'écouter. Un jour, j'avais deux couples qui voulaient se séparer devant moi. Un couple. Oh, non, c'est un fainéant. C'est salopard. Oh, sorcier. Oh, vampire. Oh, j'ai dit que mince. Je regarde comme ça, c'est chaud. Alléluia. Les deux, je les aime. Et j'ai dit, vous savez quoi? Il dit non. Je vous aime tous les deux. Je ne peux pas vous perdre. Ça les casse d'abord. J'ai dit donc, ce qu'on va faire, on va aller étape par étape. Chacun va parler et on va écouter. Je prends un cahier, je divise en deux. Je mets le prénom de la femme ici, je mets le prénom de l'homme. Je dis, on commence par la femme. Ok. Je note tout ce que je peux noter. Et dans mon esprit, je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai les problèmes. Je suis mort. Si tu m'aides pas ici, les gens ils vont m'emballer. Après, je dis, ok, frère, c'est ton tour. Papa, je vais commencer au début. Je dis, commence là où tu peux. Quand il a lancé deux histoires, elle n'a même pas attendu. Salopard! Je dis que maman, laisse papa parler. Tu as parlé ton tour. Il dit non, ce qu'il dit là m'énerve déjà. Je dis que calme. Vous voyez, il faut beaucoup de capacités d'écoute. Beaucoup de capacités d'écoute. Parce que l'autre va te parler selon sa douleur. Chacun te parlera selon sa douleur. Et non selon ce que Dieu veut pour eux. Ils savent ce que Dieu veut pour eux. Mais chacun a mal. Et c'est sa douleur qui le pilote. Il parle. Après, il dit, calme la maman. J'ai dit, papa, parle. Maintenant, comme elle a commencé comme ça, moi aussi, je vais déballer tout. J'ai dit, déballe. Il déballe. Quand il finit, la femme prend la parole. Elle dit, tu vois, depuis que son enfant est né, il n'a même plus mon temps. C'est là où j'ai compris, j'ai arrêté la conversation. Tout ça, c'était parce que le monsieur n'avait plus le temps pour sa femme. Chaque soir, quand il rentre, il prenait l'enfant, il met sur sa poitrine, il dort. Ah oui, pour toi, tu peux croire que c'est petit. Ce n'est pas petit. Seulement, ça a failli détruire un foyer. Il dit, frère, ton problème, c'est quoi? La dernière fois que tu es sorti avec elle, c'était quand? Il dit, voilà, papa, dis-lui. Ha ha ha. Non, je travaille. C'est un nouveau travail. C'est un nouveau travail. Hein? On ne connaît même plus ton emploi du temps. Tu entres à minuit, tu sors à 2 heures. Tu es vigile. Hein?
Mais ça l'est dans tous les sens. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni?
C'est la vie des coups. Et si tu n'es pas, si tu n'as pas une oreille, c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a un des prophètes qui va dire, Seigneur, donne-moi une oreille bien exercée. Il faut prier pour que Dieu te donne une oreille bien exercée. Bien exercée. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas te dire sur le problème de quelqu'un, mais seulement en écoutant, tu vas discerner le problème. Et quand j'ai dit ce problème, j'ai dit, voilà le problème. Votre enfant est en train de prendre beaucoup de place au milieu de vous. Il dit, oui, c'est vrai, vraiment, je n'ai plus vraiment, chaque fois que je rentre, ma préoccupation, c'était sur l'enfant. Je sais qu'elle est là, je travaille pour elle, qu'elle rentre, c'est elle qui garde mon salaire, c'est elle qui organise l'argent. Elle dit, est-ce que c'est mon mari? Alléluia. C'est difficile, hein? Mais il faut une oreille. Amen. Amen. C'est-il la vérité? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Proverbe chapitre 27, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Il dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Alléluia. Proverbe 27, le verset 5 à 9. Alors si la parole de Dieu affirme, la parole de Dieu va encore plus loin, Proverbe chapitre 9, le verset 8. Il dit, ne reprends pas le moqueur des craintes qui ne te haïssent. Des craintes qui ne te haïssent. Elle dit aussi dans le reste du verset, reprends le sage et il t'aimera. Reprends le sage et il t'aimera. Vous voyez? Et les amis se disent la vérité avec grâce, à l'image de la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. Dernière facette de l'amitié. Les amis, selon Dieu, tiennent leur parole l'un envers l'autre. Ils tiennent leur parole l'un envers l'autre. Alléluia. 1 Samuel chapitre 20, toujours, le verset 16 au verset 17. Je lis dans la version Darby. Il dit, et Jonathan fit alliance avec la maison de David, que l'Éternel le redemande de la main des ennemis de David. Et Jonathan fit encore jurer David par amour qu'il lui portait, car il aimait comme il aimait son âme. Vous voyez, David tint sa promesse en aimant le descendant de Jonathan. Vous vous souvenez, Mephibosheth. Alléluia. Mephibosheth dans 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 7. La Bible dit, le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Vous voyez, ils tiennent leur parole l'un envers l'autre. Les vrais amis ne se mentent pas les uns aux autres. Et ils tiennent aussi leurs promesses. Je ne sais pas pour vous, mais il m'est très difficile d'avoir une amitié réelle avec les personnes qui ne tiennent jamais la parole ou les personnes qui ne semblent jamais capables de dire oui ou non, mais qui disent constamment peut-être, on va voir. Des personnes qui finalement ne disent pas la vérité avec amour et en conséquence n'ont pas de parole. Alléluia. As-tu une parole? Demande à ton voisin, as-tu une parole? As-tu une parole? On dit généralement dans le monde, l'homme c'est sa parole. Alléluia. Est-ce que toi tu as une parole même? Hein? Est-ce que toi-même tu as une parole? Est-ce que tu es sérieux avec ta parole? Voyez? Quelle joie d'avoir un ami dans la foi qui est fiable, qui aide quand il a dit qu'il aidera. Quand il dit, je vais te donner, il te donne. quand il devait venir te donner un coup de main, il vient te donner un coup de main. Alléluia. Qui prie quand il a dit qu'il priera? Qui vient une invitation à l'heure? Un ami fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Alléluia. Alors revenons encore à l'écoute, bien-aimés. Comme nous disions plus haut, beaucoup parlent, mais écoutent très peu ou pas du tout. La sensibilité pour les besoins de l'autre s'exprime mieux pour écouter que pour parler. Mieux pour écouter que pour parler. Vous savez, une de mes plus grandes forces, c'est ma capacité à écouter. Une de mes plus grandes forces. Et c'est ça même le fondement du suivi des âmes. Si tu ne sais pas écouter, tu ne peux pas suivre les gens. Tu ne peux pas suivre les gens. C'est pourquoi très peu de pasteurs font dans le suivi, parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter. Quand ils t'ont dit, vraiment, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec toi, sauf quand tu viens faire les offrandes et les actions de grâce. Alléluia. Il dit, ah, c'est l'offrande du prophète. Voilà, viens pas ici. Alléluia. Mais quand il faut suivre, en suivre, c'est prendre du temps pour écouter. Écouter l'autre dans haut de l'église. Amen. Et des fois, quand Pierre Yonki vient chez moi nous rendre visite, parfois je lance un divers comme ça. Je vois sa manière de répondre. Mais lui, il croit que c'est un commentaire comme ça. Alléluia. Et quand il parle, je sais à quel niveau il est. Et je sais ce qu'il lui manque encore à faire. Et à la fin, quand tu peux dire, Pierre, tu vois ce qu'il t'a dit tout à l'heure là, fais attention à ça, fais attention à ça. Il dit, ah, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il dit, tu vois. Mais au départ, c'était un divin normal, n'est-ce pas? Je le sors du cadre de l'église et je lui parle. La Bible dit que quand Dieu a voulu parler à Israël, il a attiré au désert. Il a tiré au désert. Chaque fois que Dieu veut parler à un homme, il le sort de sa zone de confort. Alléluia. Sort de sa zone de confort. Le plus souvent, on est trop occupé, trop impatient pour bien écouter et on ne peut attendre le moment de donner sa propre vision. Vous voyez, quand tu es quand tu viens, tu veux parler à maman, so est tellement impatient. Quand tu commences, non, j'ai déjà compris tout ce que tu as dit. Hein. Vraiment, j'ai déjà compris. Moi, je connais déjà le genre de personnes comme ça. Quand tu causes déjà comme ça, je connais le genre de mentalité. Les gens comme vous là, tu as écouté quoi pour conclure? Alléluia. Il y a des gens comme ça, tellement ils sont impatients pour dire leur version, qu'ils anticipent et en anticipant, ils concluent sur ton intellect, sur ta réflexion. Et tu commences à regarder comme ça, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Il dit non, je connais, j'ai déjà compris. Tu vois, quand tu as dit que mangeur, j'ai compris. Tu vois? Oh, en général, les personnes qui sont dans ce genre de situation, c'est aussi des personnes qui ont eu des blessures intérieures, qui n'ont pas pris le temps de solder. Du coup, chaque fois qu'ils entendent le mot mangeur, ça fait un clic dans son esprit. Clic, ça réveille les démons de leur village. Alléluia. Proverbe 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alléluia. Proverbe 10, 19. Proverbe 25, 12. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Ainsi pour une oreille docile. Une oreille docile. Que Dieu te donne une oreille docile. Puis une oreille qui démange. Docile. Prompte à écouter. Proverbe chapitre 1, le verset 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Que le sage écoute. Alléluia. Rappelez-vous dans 1 Samuel chapitre 3. Quand Dieu veut parler à Samuel et qu'il n'écoute pas et qu'il n'arrive pas à discerner, à écouter la voix du Seigneur. Et il repart toujours chez Samuel et Élie. Élie lui dit, va et dis ton serviteur, écoute. Il n'a pas dit ton serviteur voit. Écoute. Et même dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, il dit, je me tenais à mon poste. Hein? Et il dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Comment on peut voir ce qu'on dit? Amen. Ça veut dire qu'en d'autres termes, L'oreille d'Habacouc était devenue les yeux d'Habacouc. Alors, au travers de tes oreilles, tu peux voir une situation dans la vie de l'autre. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Juste en écoutant, tu comprends la situation. Tu vois là où il y a le problème. Et pour voir ce que l'Éternel dirait. Pour voir ce que l'Éternel dirait. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute, bien-aimé. L'écoute est une compétence du leadership. Êtes-vous un bon leader? Êtes-vous un bon auditeur? Quel genre d'écoute faites-vous selon à qui vous demandez ou ce que vous lisez? Il y a entre 3 ou 7 niveaux d'écoute. Dans ce cadre, il y a 3 niveaux d'écoute. Alors, je vais vous parler des 3 niveaux d'écoute et je vais vous donner 3 obstacles à la bonne écoute. Amen. Il y a 3 niveaux d'écoute qui influencent toujours nos relations. Le premier niveau d'écoute, c'est ce qu'on appelle dans le leadership en général. Alléluia. Le premier niveau, c'est concentré sur soi. Le premier niveau, on est concentré sur soi. Cela peut aller de ne pas écouter, à écouter pour répondre ou attendre pour parler. Alléluia. On est concentré sur soi. Donc ça va du fait de ne pas écouter, à écouter pour répondre ou attendre pour parler. Le deuxième niveau, c'est concentrer sur le locuteur. C'est concentrer sur le locuteur. Alléluia. Concentrer sur le locuteur. À ce niveau, vous prêtez attention à ce que la personne dit et écoutez le sens. Amen. Et écoutez le sens. Le troisième niveau, on est concentré sur l'énergie. On est concentré sur l'énergie. Alléluia. Ici, là, ça veut dire que quoi? À ce niveau, vous êtes à l'écoute non seulement de ce que la personne dit, mais aussi de ce qu'elle ne dit pas. Alléluia. Parce que dans une communication, il y a la communication verbale et la communication non verbale. On a tous vu ça à l'école, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont jeté leur cahier depuis. Il y a ceux que le vent et la tempête ont ramassé le sac en route en revenant de l'école. Que la tempête la ramène ton sac au nom de Jésus. Vous voyez? Donc là, le troisième niveau de communication, d'écoute, c'est la partie la plus, c'est le niveau le plus important et le plus intéressant. C'est-à-dire, tu es sensible à ce que la personne dit et ce qu'elle ne dit pas. Mais ce qu'elle ne dit pas, tu le comprends au travers de ce qu'elle dit. Là, il faut beaucoup exercer son oreille. Alléluia. Alors là, à partir de ce moment, vous observez simplement son langage corporel et d'autres signaux non verbaux. Et c'est là où beaucoup de faux prophètes passent pour attraper beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils sont des fins psychologues. Il y a la manière que tu t'assois à l'église, on sait d'ailleurs que tu as un problème. Alléluia. Et la manière que ton visage se positionne, on sait déjà que non, c'est un problème de famille. Quand tu t'assois, on dit, tu as un problème avec ta famille. Tu dis, oui, vrai. Ah! Il dit, ok, attends d'abord, attends. C'est avec tes frères. Un frère! Oh mon Dieu, le culte ne s'achève pas à cause de toi. Est-ce que je peux avancer? Vous voyez, l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 1, le verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Ça, c'est un leader excellent. Si tu accomplis cette phrase-ci, tu es un bon leader. Prompt à écouter, j'ai dit prompt à parler. Hein? Genre, tu dis un, l'autre a dit 100. Prompt à parler, à écouter, lent à parler, lent à la colère. À peine on a dit tu es énervé. Tu t'énerves de quoi? Oh non, l'autre, j'aime pas sa manière. Tu es toujours énervé. Quand tu diriges les gens avec la colère, tu es un destructeur. Amen. Tu ne dois pas diriger les gens avec la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est écrit. Quelle que soit la raison, même si la personne s'est mal comportée, tu n'as pas le droit d'être en colère. Si Dieu était en colère contre toi, tu devais être là. Si les autres qui t'ont encadré étaient en colère contre toi, tu crois que tu devais être là où tu es? Jamais. Les gens étaient tolérants, même tes parents étaient tolérants. Alléluia. C'est pourquoi il y a des parents qu'il faut leur donner le trophée. Quand tu vois aujourd'hui comment certains enfants se comportent dans la vie, tu dis, oh, le père là, il a souffert. Alléluia. Il a souffert. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un disait que si à ton mariage, tu vois ta famille danser beaucoup, c'est que la femme qu'on te donne, c'est les problèmes, frère. On a... Si à ton mariage, si à ton mariage, ta belle famille danse beaucoup, sache qu'on te file les problèmes. C'est que les gars disent, enfin, alléluia. Donc, ils fêtent leur jubilé, la délivrance. Amen. Alors, le manque d'écoute véritable est une des causes les plus courantes de frustration et de friction dans nos relations. Trop souvent, nous parlons les uns aux autres au lieu de parler les uns avec les autres. Amen. Les uns, nous parlons les uns aux autres au lieu de parler les uns avec les autres. Amen. Heureusement, l'écoute est une compétence qui s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend. Rappelez-vous, la Bible parle d'oreilles exercées. Quand on parle exercer, ça veut dire que c'est un exercice. Il faut faire des exercices pour exercer son oreille. Alléluia. Et donc la Bible exhorte ici le chrétien à être prompt à écouter, lent à la colère, lent à parler. Si vous maîtrisez les deux premières attitudes, la troisième suivra automatiquement. C'est-à-dire que quoi? Si vous êtes prompt à écouter, lent à parler, c'est ça facile pour vous d'être lent à la colère. On est lent à la colère, on n'est pas lent à la colère tout simplement parce qu'on n'écoute pas et parce qu'on parle beaucoup. Amen. J'ai dit bien encore. Jacques dit, Jacques 1, 19, il dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Amen. Trois étapes. Première étape, c'est quoi? Prompt à écouter. Deuxième étape, lent à parler. Troisième étape, lent à la colère. Alors, si vous maîtrisez les deux premiers, la troisième deviendra évidente. Tu veux traiter avec la colère dans ta vie, sois prompt à écouter, lent à parler. Sois prompt à écouter, lent à parler. Sois prompt à écouter et lent à parler. Alors, on termine avec cette partie. On verra la suite mercredi prochain. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Alors, je nous donne maintenant trois obstacles à une bonne écoute. Trois obstacles. On va aller rapidement. Le premier obstacle, c'est la présomption. La présomption. La présomption se manifeste de deux côtés. Premier côté, c'est que un présomptueux, c'est quelqu'un qui pense déjà tout savoir. Alléluia. C'est quelqu'un qui pense déjà tout savoir. Alléluia. Proverbe chapitre 18, le verset 13. Il dit, qui répond avant d'avoir écouté, montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Proverbe 18, 13. Qui répond avant d'avoir écouté, montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Ça, c'est le premier niveau d'un présomptueux. C'est quelqu'un qui pense déjà avoir, déjà tout savoir. Le deuxième niveau d'un présomptueux, c'est quelqu'un qui vous soupçonne de ce que vous n'avez pas pensé. Alléluia. Non, je connais les gens comme vous. Hein. Quand vous parlez comme... Quand tu parles, je connais déjà ce que, là où tu es en train d'aller, alors qu'il ne connaît rien. Lui, il est en train d'expliquer sa part d'histoire. Toi, tu es en train de vivre ta part d'histoire. Deuxième obstacle à une bonne écoute, l'impatience. L'impatience. Oui, bien aimé, nous interrompons notre interlocuteur et tirons des conclusions hâtives. Tirons des conclusions hâtives. Tu ne laisses pas que l'autre finisse. Tu as la couper pour dire non, j'ai tout compris, ça va. je vais maintenant te dire ma part aussi. Alléluia. L'impatience. Sois patient de laisser l'autre finir ce qu'il a fini. Proverbe 29, le verset 20. Proverbe 29, 20. Si tu rencontres quelqu'un qui parle sans réfléchir, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Sache qu'il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Alléluia. Quelqu'un qui parle sans réfléchir. Troisième obstacle à une bonne écoute, l'orgueil, naturellement. Alléluia. L'orgueil. Nous sommes sur la défensive. Quand quelqu'un est orgueilleux, il est toujours sur la défensive. Et il refuse d'apprendre. Et il refuse d'écouter. Vous voyez? Chaque fois que l'orgueil entre dans le cœur d'un homme, il est sur la défensive. Tout ce qui vient, pour lui, il se protège. Il essaie de se protéger. Et tout ce qui vient, il a déjà une pensée négative de ce que c'est. Alléluia. Et donc, Proverbe chapitre 12, le verset 15 dit, l'insensé estime toujours qu'il agit correctement. L'homme sensé accepte les conseils. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'insensé estime toujours qu'il agit correctement. L'homme sage accepte les conseils. Alors, vous pouvez apprendre de n'importe qui si vous savez poser les bonnes questions. Amen. Même du fou. Vous pouvez apprendre de n'importe qui si vous savez poser les bonnes questions. Vous pouvez apprendre de n'importe qui si vous êtes sensible à l'écoute. Alléluia. Alors, permettez-moi de vous proposer ces trois aides auditives. Amen. Ça va vous aider. Première aide, quand il dit auditive, c'est l'oreille. Alléluia. Première aide, écoutez avec vos yeux. Écoutez avec vos yeux. Écoutez avec votre cœur. Prenez le temps d'écouter votre entourage. Trois aides. Écoutez avec vos yeux, c'est-à-dire la communication non-verbale à environ 80%. Alléluia. Donc, les non-dits ne sont pas les paroles, c'est généralement l'expression du corps et du visage. Alléluia. Donc, écoutez avec vos yeux. Les expressions du visage, le langage corporel sont souvent plus éloquents que les paroles. Regardez les gens quand vous les écoutez. C'est pourquoi vous allez voir les blancs. En général, quand tu parles à un blanc, il te fixe dans les yeux. Les blancs fixent toujours l'autre dans les yeux. Parce que la vérité est dans les yeux de l'autre. La vérité est dans les yeux de l'autre. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Donc, en te regardant dans les yeux, il peut discerner si tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Et en général, les personnes fausses baissent le regard. Écoutez avec votre cœur, c'est-à-dire soyez compatissant. Soyez attentif aux émotions qui se cachent derrière les mots, qui se cachent derrière les phrases. Alléluia. Soyez attentif et prenez le temps d'écouter votre entourage. En troisième lieu, dans le monde des affaires, il y a un homme qui s'appelait Tom Peters. Il a appelé ça diriger en se promenant. Diriger en se promenant. Par exemple, imaginez à quel point vos relations pourraient être transformées si vous vous appliquez à écouter attentivement ceux qui vous entourent. Alléluia.